Chapitre 10. J'ai longuement raconté les résistances du vieux principe, parlement, noblesse, clergé, et je vais en peu de mots inaugurer le nouveau principe, exposer brièvement le fait immense où ces résistances vinrent se perdre et s'annuler. Ce fait, admirablement simple dans une variété infinie, c'est l'organisation spontanée de la France. Là est l'histoire, le réel, le positif, le durable, et le reste est un néant. Ce néant, il a fallu toutefois le raconter longuement. Le mal, justement parce qu'il n'est qu'une exception, une irrégularité, exige pour être compris un détail minutieux. Le bien, au contraire, le naturel qui va coulant de lui-même, nous est presque connu d'avance par sa conformité aux lois de notre nature, par l'image éternelle du bien que nous portons en nous. Les sources où nous puisons l'histoire en ont conservé précieusement le moins digne d'être conservé. L'élément négatif, accidentel, l'anecdote individuelle, telle ou telle petite intrigue, tel acte de violence. Les grands faits nationaux où la France a agi d'ensemble se sont accomplis par des forces immenses, invincibles, et par de cela même nullement violentes. Ils ont moins attiré les regards, passés presque inaperçus. Tout ce qu'on donne sur ces faits généraux, ce sont les lois qui en dérivent, qui en sont les dernières formules. On ne tarit pas sur la discussion des lois, on répète religieusement le parlage des assemblées. Mais les grands mouvements sociaux qui les décidèrent, ces lois qui en furent l'origine, la raison, la nécessité, à peine une ligne sèche les rappelle au souvenir. C'est pourtant là le fait suprême, où se résout tout le reste, dans cette miraculeuse année qui va de juillet en juillet. La loi est partout devancée par l'élan spontané de la vie et de l'action. Action qui, parmi tel désordre particulier, contient pourtant l'ordre nouveau, et d'avance réalise la loi qu'on fera tout à l'heure. L'Assemblée croit mener, elle suit. Elle est le greffier de la France. Ce que la France fait, elle l'enregistre, plus ou moins exactement, elle le formule, elle écrit sous sa dictée. Que les scribes viennent ici apprendre qu'ils sortent un moment de leur antre, le bulletin des lois, qu'ils écartent ces montagnes de papier timbré qui leur ont caché la nature. Si la France n'avait pu se sauver que par leurs plumes et leurs papiers, la France aurait péri 100 fois. Moment grave d'intérêt infini, où la nature se retrouve à temps pour ne pas périr, où la vie, en présence du danger, suit l'instinct, son meilleur guide, et trouve en lui son salut. Une société vieillie, dans cette crise de résurrection, nous fait assister à l'origine des choses. Les publicistes rêvaient le berceau des nations. Pourquoi rêver? Le voici. Oui, c'est le berceau de la France que nous avons sous les yeux. Dieu te protège, ô berceau. Qu'il te sauve et te soutienne sur ces grandes eaux sans rivage où je te vois avec tremblement flotter sur la mer de l'avenir. La France naît et se lève au canon de la Bastille. En un jour, sans préparatif, sans s'être entendu d'avance, toute la France, ville et village, s'organise en même temps. En chaque lieu, c'est la même chose. On va à la maison commune, on prend les clés et le pouvoir au nom de la nation. Les électeurs, en 89, tous ont été électeurs. Forment des comités, comme celui de Paris, nous sortirons tout à l'heure les municipalités régulières. Les gouvernements de ville, comme celui de l'État, échevins, notables, etc., s'en vont la tête basse par la porte de derrière, laissant à la commune qu'ils administraient des dettes pour souvenir. La Bastille financière que l'oligarchie des notables fermait si bien à tous les yeux, la caverne administrative apparaît au jour. Les informes instruments de ce régime équivoque, l'embrouillement des papiers, la savante obscurité des calculs, tout cela est traîné à la lumière. Le premier cri de cette liberté, qu'ils appellent l'esprit de désordre, c'est au contraire ordre et justice. L'ordre dans la pleine lumière. La France dit à Dieu comme Ajax, fais-moi plutôt périr à la clarté des cieux. Ce qu'il y avait de plus tyrannique dans la vieille tyrannie, c'était son obscurité. Obscurité du roi au peuple, du corps de ville à la ville, obscurité non moins profonde du propriétaire au fermier. Que devait-on en conscience payer à l'État, à la commune, au seigneur? Nul ne pouvait le savoir. La plupart payaient ce qu'ils ne pouvaient même lire. L'ignorance profonde où le grand instituteur du peuple, le clergé l'avait retenu, le livrait aveugle et sans défense à l'épouvantable vermine des griffonneurs de papier. Chaque année, ce papier timbré revenait plus noir encore, avec de lourdes surcharges pour l'effroi du paysan. Ces surcharges mystérieuses, inconnues, qu'on lui lisait bien ou mal, il lui fallait les payer. Mais elles lui restaient sur le cœur, déposées l'une sur l'autre comme un trésor de vengeance, d'indemnité exigible. Plusieurs, en 89, disaient qu'en 40 années, ils avaient payé, avec ces surcharges, bien plus que ne valaient les biens dont ils étaient propriétaires. Nulle atteinte ne fut portée à la propriété dans nos campagnes qu'au nom de la propriété. Le paysan l'interprétait à sa manière, mais jamais il n'éleva de doute sur l'idée même de ce droit. Le travailleur des campagnes sait ce que c'est qu'acquérir. L'acquisition par le travail qu'il fait ou voit faire tous les jours lui inspire le respect, et comme la religion de la propriété. C'est au nom de la propriété, longtemps violée et méconnue par les agents des seigneurs, que les paysans érigèrent ces maïs où ils suspendaient les insignes de la tyrannie féodale et fiscale, les girouettes des châteaux, les mesures de redevances injustement agrandies, les cribles qui triaient le grain tout au profit du seigneur ne laissaient que le rebut. Les comités de juillet 89, origine des municipalités de 90, furent pour les villes surtout l'insurrection de la liberté, et pour les villages, celle de la propriété, je veux dire de la plus sainte propriété, du travail de l'homme. Les associations de villages furent des sociétés de garantie, premièrement contre l'homme d'affaires, deuxièmement contre le brigand, deux mots souvent synonymes. Conjuration contre les hommes d'argent, collecteurs, régisseurs, procureurs, huissiers, contre cet affreux grimoire qui, par une magie inconnue, avait desséché la terre, anéanti les bestiaux, maigré le paysan jusqu'à l'eau, jusqu'au squelette. Confédération aussi contre ces bandes de pillards qui couraient la France, gens sans travail, affamés, mendiants devenus voleurs, qui, la nuit, coupaient les blés même en verre, tuaient l'espérance. Si les villages n'avaient pris les armes, une famine terrible en fut résultée. Une année comme elle fut l'an 1000 et plusieurs du Moyen-Âge. Ces bandes mobiles, insaisissables, attendues partout, et que la terreur rendait comme présentes partout, glaçaient d'effroi nos populations moins militaires qu'aujourd'hui. Tout village arma. Les villages se promirent protection mutuelle. Ils convenaient entre eux de se réunir en cas d'alarme à tel lieu, dont la position était centrale, ou qui dominait un passage de route ou de rivière important pour le pays. Un seul fait éclaircira mieux. Il rappelle, sous quelques rapports, la panique de Saint-Jean-du-Gard que j'ai racontée plus haut. Un jour d'été de grand matin, les habitants de Chavignon, N, virent, non sans crainte, leur rue toute pleine de gens armés. Ils reconnurent qu'heureusement, c'était leurs voisins et amis, les gardes nationales de toutes les communes voisines qui, sur une fausse alarme, avaient marché toute la nuit pour venir les défendre des brigands. On s'attendait à un combat, et ce ne fut qu'une fête. Tous les gens de Chavignon, ravis, sortirent des maisons, se mêlèrent à leurs amis. Les femmes apportèrent, mirent en commun tout ce qu'on avait de vivre, on ouvrit des pièces de vin. On déploya sur la place le drapeau de Chavignon, où l'on voyait du blé, des raisins traversés d'une épée nue. La devise résumait très complètement toute la pensée du moment. Abondance et sécurité, liberté, fidélité et concorde. Le capitaine général des gardes nationales, qui était venu, fit un petit discours fort touchant sur l'empressement des communes à venir défendre leurs frères. Au premier mot, nous avons laissé nos femmes et nos enfants en larmes. Nous avons laissé nos charrues et nos ustensiles dans les champs. Nous sommes venus sans prendre le temps de nous habiller tout à fait. Les gens de Chavignon, dans une adresse à l'Assemblée nationale, lui racontent tout, comme l'enfant à sa mère, et plein de reconnaissance, ils ajoutent ce mot du cœur. Quels hommes, messieurs, quels hommes, depuis que vous leur avez donné une patrie. Ces expéditions spontanées se faisaient ainsi, comme en famille, le curé marchant en tête. À celle de Chavignon, quatre des communes qui varent avaient leur curé avec elles. Dans certaines contrées, par exemple dans la Haute-Saône, les curés ne s'associèrent pas seulement à ces mouvements, ils s'en firent le centre, en furent les chefs, les meneurs. Dès le 27 septembre 1789, dans les environs de Luxeuil, les communes rurales se fédérèrent sous la direction du curé de Saint-Sauveur. Tous les maires jurèrent dans ses mains. À Issy-l'Évêque, Haute-Saône, il y eut une chose plus étrange. Dans l'anéantissement de toute autorité publique, ne voyant plus de magistrats, un vaillant curé prit pour lui tous les pouvoirs. Il rendit les ordonnances, rejugea les procès jugés. Il fit venir les maires du voisinage et promulgua devant eux les lois nouvelles qu'il donnait à la contrée. Puis, armé, l'épée à la main, il commençait à procéder au partage égal des terres. Il fallut arrêter son zèle, lui rappeler qu'il y avait encore une assemblée nationale. Ceci était rare et singulier. Le mouvement en général fut régulier, mieux ordonné qu'on ne l'eût attendu de telles circonstances. Sans loi, tout suivit une loi, la conservation, le salut. Avant que les municipalités ne s'organisent, le village se gouverne, se garde, se défend comme association armée d'habitants du même lieu. Avant qu'il n'y ait des arrondissements, des départements créés par la loi, les besoins communs, spécialement celui d'assurer les routes, d'amener les subsistances, forment des associations entre village et village, ville et ville, de grandes confédérations de protection mutuelle. On est tout près de bénir ces périls quand on voit qu'ils forcent les hommes de sortir de l'isolement, les arrachent à leur égoïsme, les habituent à se sentir vivre dans les autres, qu'ils éveillent en ces âmes engourdies d'un sommeil de plusieurs siècles la première étincelle de fraternité. La loi vient reconnaître, autoriser, couronner tout cela, mais elle ne le produit point. La création des municipalités, la concentration dans leurs mains de pouvoirs même non communaux, contributions, haute police, disposition de la force armée, etc. Cette concentration qu'on a reprochée à l'Assemblée n'était pas l'effet d'un système, c'était la simple reconnaissance d'un fait. Dans l'anéantissement de la plupart des pouvoirs, dans l'inaction volontaire, souvent perfide, de ceux qui restaient, l'instinct de la conservation avait fait ce qu'il fait toujours. Les intéressés avaient pris eux-mêmes leurs affaires en main. Et qui n'est intéressé dans de telles crises? Celui qui n'a point de propriété, celui qui n'a rien, comme on dit, apportant encore ce qui est bien plus cher qu'aucune propriété. Une femme, des enfants à défendre. La nouvelle loi municipale créa 1200 000 magistrats municipaux. L'organisation judiciaire créa 100 000 juges, dont 5 000 juges de paix, 80 000 assesseurs des juges de paix. Tout cela pris dans les 4 298 000 électeurs primaires, comme propriétaires ou locataires payés à la valeur de 3 journées de travail, environ 3 livres. Le suffrage universel avait donné 6 millions de votes. Je m'expliquerai plus loin sur cette limitation du droit électoral, sur les principes divers qui dominèrent l'Assemblée. Il me suffit ici de faire remarquer le prodigieux mouvement que dut faire en France, au printemps de 90, cette création d'un monde de juges et administrateurs, 1300 000 à la fois, tous sortis de l'élection. On peut dire qu'avant la conscription militaire, la France avait fait une conscription de magistrats. La conscription de la paix, de l'ordre, de la fraternité. Ce qui domine ici dans l'ordre judiciaire, c'est ce bel élément nouveau, inconnu à tous les siècles. Les 5000 arbitres ou juges de paix, leurs 80 000 assesseurs. Et dans l'ordre municipal, c'est la dépendance où la force militaire se trouve à l'égard des magistrats du peuple. Le pouvoir municipal hérita de toutes les ruines. Lui seul, entre l'ancien régime détruit, le nouveau sans action, lui seul fut debout. Le roi était désarmé, l'armée désorganisée, les états, les parlements démolis, le clergé démantelé, la noblesse rasée tout à l'heure. L'assemblée elle-même, la grande puissance apparente, ordonnait plus qu'elle n'agissait. C'était une tête sans bras. Elle eut 44 000 mains dans les municipalités. Elle se remit presque de tout aux 1200 000 magistrats municipaux. Ce nombre immense était une grande difficulté d'action. Mais comme éducation d'un peuple, comme initiation à la vie publique, c'était admirable. Renouvelée rapidement, la magistrature devait bientôt, dans beaucoup de localités, épuiser la classe où elle se recrutait. Les 4 millions de propriétaires ou locataires à 3 livres d'impôts. Il fallait, c'était une belle nécessité de cette grande initiation, il fallait créer une classe nouvelle de propriétaires. Les paysans du clergé, de l'aristocratie, exclus d'abord de l'élection comme clients de l'ancien régime, allaient maintenant, comme acquéreurs des biens mis en vente, se trouver propriétaires, électeurs, magistrats municipaux, assesseurs de juges de paix, etc., et comme tels, devenir les plus solides appuis de la Révolution.